Ambiante Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambiante Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans l'émission hors série d'Ambiante Memory, nous n'allons pas parler d'ambiante musique. Nous resterons, bien entendu, dans le sillon des musiques électroniques, plus extrêmes, car nous parlerons avec un artiste qui a fait du hardcore, mais pas que. O, alias Laurent O, est mon invité. Compositeur, DJ, figure emblématique du Frenchcore, designer industriel, cet artiste multicarte nous parlera de sa carrière, de ses productions, de ses labels et de sa vision de la musique électronique actuelle. Bonsoir O, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Ambiante Memory.
Bonsoir.
C'est pas comment, on va parler un petit peu de techno, de hardcore dans une émission ambiante. Donc comme je le disais précédemment, tu as une longue carrière ainsi qu'une belle discographie. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts avec la musique? Comment est venu ce déclic? Est-ce que c'était peut-être quand tu étais enfant, tu as commencé à écouter de la musique?
J'ai baigné dans la musique depuis toujours. Mon père était musicien et il y avait toujours de la musique à la maison. Donc j'ai commencé très tôt à aimer la musique et l'écouter massivement. Et mon premier électrophone à 5 ans, à l'époque en 72, les Beatles, Pink Floyd et compagnie. Enfin, et puis les choses à l'époque.
Oui, des artistes des années 70. Après, j'imagine que donc, les années ont défilé. On est arrivé dans les années 80. Tu étais peut-être aussi le rock. Fin des années 80, début un petit peu des musiques électroniques avec la house music.
Oui, avant il y a eu le funky quand même, une musique que j'adorais. Et puis les choses très très commerciales de l'époque, les années 80, c'est quand même très très large. J'adorais déjà mixer de la musique et je m'amusais j'avais déjà une petite table de mixage et je m'amusais à faire des émissions de radio dans ma chambre. Et donc j'étais scotché à mes platines. Donc pour en arriver à la musique électronique, en fait, juste avant, il y a eu la New Beat. Qui était le passage obligé entre la musique dance floor et la musique donc électro ou techno. Donc c'est ça, c'était en 88, 89 où j'ai découvert cette musique-là. Donc à l'époque j'étais à Paris. Et donc à la locomotive, il y avait des soirées New Beats et c'était absolument fabuleux. Et d'un seul coup, cette musique-là est apparue et donc j'ai plongé dedans. J'ai trouvé ça absolument génial. Une musique où c'était pas chanté, c'est une musique pour mixer. C'était absolument fabuleux parce que tout avait à peu près le même rythme, les mêmes sonorités et donc on pouvait mixer pendant des heures des disques comme ça. Donc ça c'était une vraie passion, une vraie découverte. Donc fin 80, début 90.
Tu sortais un petit peu en boîte de nuit parisienne, donc tu as découvert ça. Et ce qui concerne vraiment la techno pure et dure, est-ce que c'est vraiment à la locomotive ou d'autres lieux mythiques où tu as pu découvrir ce genre musical?
Eh bien, en fait, il y a différentes versions. Hein. Moi, ma version, c'est que j'ai découvert la première rave party en 89. Donc, c'est le lycée arménien à Paris. La première rave, voilà. Et je suis tombé par hasard là. Et puis, ça s'est enchaîné. C'est-à-dire, en fait, je suis sorti tous les week-ends en rave party. Et au début, c'était tout petit. Et c'était à droite, à gauche, c'était absolument pas connu et c'était absolument génial parce que d'un seul coup, les DJ passaient des disques toute la nuit avec une musique ininterrompue. Donc voilà, c'est 90.
Donc c'était vraiment des soirées vraiment en petit comité, il n'y avait pas beaucoup de communication sur ce genre de soirées, elles n'étaient peut-être pas forcément légales, et du coup c'est ce qui t'a amené peut-être après à tu as commencé à acheter des disques techno, à mixer un peu plus ce genre de musique,
Ah mais directement, hein. Ah oui, directement. C'est-à-dire, en fait, dès que j'ai découvert cette musique-là, il y avait deux boutiques de disques à Paris, USA Import et l'autre, je ne me souviens plus du nom. Il y avait deux, trois boutiques. Voilà. Donc directement, j'ai commencé à acheter massivement ces morceaux qui étaient essentiellement belges, hollandais, un petit peu allemands, mais c'était vraiment la Belgique hein, qui avec ce son complètement nouveau et puis donc à 100 quoi 120 125 BPM 128 BPM c'était super rapide déjà pour l'époque hein, 128 parce que la musique dance floor ça commence à 90 100 Donc c'était un engouement. J'ai donc déjà acheté les disques qui sortaient. Donc chaque semaine, il y avait des nouveautés. Et puis après, les mixer pendant toute la semaine, dans tous les sens.
D'accord, c'était plus un mix chez toi ou toi aussi, du coup, tu as pu faire des soirées en tant que DJ pour justement faire découvrir tes sets, ton univers. Comment ça s'est passé?
Alors ça a commencé grâce à l'émission de Patrick Rognan, Rev Up. Et donc ça a commencé à la radio, sur FG. Et j'ai commencé à mixer à FG plusieurs fois. Et puis après, il m'a présenté des organisateurs. Et donc j'ai commencé à mixer en soirée vers début 92. Donc vers Paris, Ivry-sur-Seine, etc. Donc des petites rêves parties où on était 300, 350. C'est comme ça que j'ai commencé à mixer en soirée.
D'accord, et donc l'émission de Patrick Rognan, c'est Rive Up, je crois. Rive Up, tu avais une résidence ou c'était vraiment occasionnel quand tu venais mixer dans...
Non, c'était occasionnel. En fait, on s'était rencontrés en soirée... justement juste avant la techno il y a moi j'aimais bien des musiques un peu bad cave industrielles et donc j'avais rencontré Patrick Rognan dans ces soirées là des concerts. Je crois que c'était pour un concert de Legendary Pink Dots, c'est un groupe hollandais que j'adorais et donc on s'est rencontré là et puis de fil en aiguille, j'ai été invité donc à mixer dans son émission. Do you ever dream of me?
tu parlais vraiment de musique industrielle. Tu as une formation aussi de designer industriel. Alors, je ne sais pas si on peut faire le pont. Est-ce que, justement, c'est on va dire ça en adéquation, en corrélation, pardon, avec tes études, justement, le fait que tu t'intéresses aux musiques industrielles?
Alors, je pense que c'est juste le nom, hein, qui est, c'est un hasard industriel. C'est un hasard. En fait, j'ai découvert les rêves parties quand j'ai commencé mon école de design, qui est l'ENSCI, les ateliers. Je suis rentré en septembre 89 dans cette école et j'ai découvert les rêves parties en octobre, fin octobre ou début novembre 89. Et donc, j'ai passé 5 ans à l'école, donc à Paris, dans cette école, à apprendre à faire du design industriel et donc à sortir tous les week-ends en rêve party. C'est juste un concours de circonstances.
Et justement, si durant tes études, tu as aussi collaboré pour une création d'une platine CD pour DJ.
Alors, disons qu'à l'époque, j'étais complètement parti dans les rêves parties déjà. Et oui, mon projet de diplôme, que j'ai passé en décembre 93, c'était une interface, une platine CD pour DJ. Parce qu'à l'époque, tout le monde mixait avec des platines vinyle et il n'y avait pas de platine CD. Il y avait une pauvre platine CD absolument horrible, la Denon, je ne sais plus comment elle s'appelle, la DN2000. Enfin, c'est un truc avec deux, trois boutons et c'était absolument pas pratique. Donc, j'ai fait un stage chez Power, c'est une boîte française de matériel. Et pendant 6 mois ou 1 an, j'ai bossé sur cette interface. Et donc, le jour de mon diplôme, j'avais une maquette fonctionnelle où on pouvait donc mixer. Et donc, j'avais fait la démo avec un sampler. Donc, on pouvait mixer du numérique. Donc, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de MP3, il n'y avait pas de. Ça n'existait pas tout ça. C'était les CD. Et voilà, donc c'était la première platine CD pour DJ. Et après, il n'y a pas eu de suite parce qu'il fallait, un financement que je n'ai pas trouvé de financement pour développer cette machine.
Tu écumais les rêves parties, tu étais toi-même DJ, mais qu'est-ce qui t'a vraiment lancé, on va dire, voilà, quel a été le déclic qui t'a dit, bon, là, ça va peut-être me permettre de me professionnaliser, peut-être de gagner de l'argent à faire justement à mixer. Quel a été vraiment peut-être la soirée ou l'événement ou le lieu qui a pu justement faire en sorte de te lancer comme DJ professionnel?
Alors, en 92-93, je mixais un petit peu donc sur Paris et ses environs. Et quand j'ai eu mon diplôme en décembre 93, une fois que j'ai eu mon diplôme, donc je suis sorti de l'école. Et en janvier, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas du tout envie de faire du design, ni de bosser dans une boîte d'architectes. Et donc, j'ai fait en 3 mois, j'ai fait un disque. Et en avril 94, j'ai sorti ce disque. Et ce disque, il a fait un carton. J'étais repéré par le magazine Frontpage, qui est un magazine allemand de musique, un gratuit qui était tiré vraiment très largement diffusé. Et donc, j'étais repéré par ce magazine et invité en novembre à May Day, qui est la plus grosse fête indoor d'Europe. Voilà, donc j'ai mixé le 25 et 26 novembre à Berlin et ça m'a propulsé en un seul coup, m'a propulsé dans l'Europe. Et donc j'ai commencé juste après, et on m'a invité dans toute l'Europe, essentiellement en Allemagne, en Suisse, en Italie et très peu en France. Donc j'ai commencé ma carrière à l'étranger.
D'accord. Est-ce que justement, je crois que cette soirée a été médiatisée. Est-ce qu'on peut retrouver des vidéos de...
Ah ben oui. Alors la chance de ma vie, c'est en fait il y a une télévision qui s'appelle Viva, qui est l'équivalent, c'est une sorte de MTV ou MCM, c'est une télévision musicale. Et donc Viva avait retransmis la May Day toute la nuit. Et en fait, elle a commencé à diffuser May Day à 22h. Et moi, j'ai commencé à mixer à 22h. Donc, en fait, D'un seul coup, j'ai été médiatisé. Enfin, c'était un truc improbable, incroyable, et une chance de, bah de, voilà, de commencer l'émission, de commencer donc Mayday. Et donc oui, on le trouve sur YouTube. Hein, on le trouve encore.
Et du coup, tu fais surtout des DJ sets. Fais-tu aussi des lives?
Alors j'ai fait quelques lives, mais c'est vraiment pas mon, c'est pas un truc que j'apprécie parce que ma musique c'est une musique de studio et tous les morceaux sont différents. Les machines sont connectées différemment, les réglages sont différents. Donc je suis très très, je ne suis pas du tout à l'aise en live pour jouer plusieurs morceaux à la suite. Donc j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait une tournée. J'ai dû faire une quinzaine de lives en tout, mais c'est pas mon truc en fait. Moi, je préfère en soirée, c'est DJ et la musique, c'est à la maison, c'est en studio, quoi.
Pour les DJ sets, c'est vrai que bon, il y a quelques vidéos qui tournent sur le net. Bon, on voit que bah, c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup. Tu communiques aussi beaucoup avec le public. Tu te rapproches de la scène, tu parles avec eux, tu danses avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, justement, par rapport au set que tu peux faire? C'est vraiment de communiquer vraiment un maximum avec le public. Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui est essentiel pour toi?
Je trouve qu'un DJ, c'est pas une personne qui est dans son coin. Quand je vais en soirée, généralement, je suis à l'ouverture. Même quand je mixe pas, hein, c'est parce que j'ai beaucoup dansé, je suis beaucoup sorti. Et quand je sors, c'est ouverture, fermeture. Ça, c'est un truc, c'est toujours du début jusqu'à la fin. Et quand je mixe, c'est pareil. Je danse avec les gens et quand je mixe, je danse aussi avec les gens. Je les regarde, je souris. Il faut qu'il y ait une interaction. Faut qu'il y ait une interaction. On n'est pas là pour faire un truc dans son coin. C'est-à-dire qu'en fait, un artiste, il est là pour faire plaisir. Donc.
Thank you.
les années 90, vous avez été assez prolifique, comme on disait. Voilà, tu as pas mal tourné. Tu as fait aussi beaucoup de productions. Alors, à quel moment, justement, est né Epithet Record? Explique-nous tout ça.
Comme je disais, en 94, en avril 94, j'ai lancé j'ai fait mon premier disque et donc c'est Epithet. J'ai trouvé ce nom-là. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce nom. Et très vite, en fait, il y a des artistes à l'étranger qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient sortir sur mon label. Donc l'histoire, elle s'est faite toute seule, naturellement. Donc le premier étranger, c'est un japonais, Shige Tomo. Il m'avait envoyé un fax. Il parlait très très mal anglais. Il m'a envoyé un fax avec trois mots: I want Epithet release. Et il m'avait envoyé un DAT. Donc j'ai dit ok, hein, on va faire ça. J'adore faire la musique, hein. Donc très vite j'ai fait plusieurs disques, et puis le label il a poussé tout seul, mais d'un coup il est devenu énorme. Ça marchait trop bien. Dès que je faisais un disque, je vendais tout en deux semaines, trois semaines. Et il fallait represser. Et j'ai signé Micropoint. Micropoint, ça a fait un carton. Mon premier album, il a fait un carton. Mais tout de suite, immédiatement. Donc c'est du hardcore. Et comme j'aime bien la musique industrielle, j'avais créé donc un autre label qui s'appelle UW, qui est plus industriel, ça grince vraiment, c'est pas forcément dance floor. Ce label-là, il est monté en flèche. Donc j'avais deux labels où je faisais plus de musique après sur UW, et puis j'invitais des artistes que je rencontrais en fait en Europe. Et je voulais que ce soit un label international. Et comme je vendais déjà 75% de la production à l'étranger, je voulais que ce soit... c'est pas un label français, c'est un label de musique. C'est un label de musique du monde entier.
Oui, c'est un label entre guillemets sans nationalité, même s'il est basé en France. Voilà, tu produisais des artistes d'Europe et d'ailleurs. Il y a eu un beau développement. Par le biais du label aussi, tu as peut-être organisé de nombreuses soirées, de soirées techno ou autres, enfin en tout cas dans les musiques électroniques. Oui, ce sont des choses aussi que tu faisais par le biais de ton label.
Alors déjà au début 93-94, avec mon super copain Iguane, on faisait des petites soirées à droite à gauche en plein air ou dans des petites salles. Donc ça, c'était vraiment entre amis, où on commençait les vendredis puis on finissait le dimanche. Et après quand le label est devenu un vrai label entre guillemets, donc ça s'est transformé en UWE, là oui on a organisé des événements plus importants, des tournées d'artistes, des grosses fêtes, alors beaucoup dans l'est de la France, parce que je mixais énormément à Nancy, Metz et Strasbourg. Donc on a fait beaucoup de fêtes par là. D'ailleurs j'ai fait un live qui s'appelle Meta Ends, et on avait fait une énorme soirée à Verdun en janvier 2001, je crois. Et donc comme on avait un catalogue d'artistes, en fait un label c'est en principe ça fait tourner ces artistes, ça produit la musique, mais il faut qu'il y ait un suivi. Donc des tournées d'artistes dans toute la France, des zéniths ou des clubs enfin n'importe quoi. Mais donc on a organisé beaucoup de soirées pendant au début des années 2000.
D'accord, c'était encore assez simple dans les années 90, début 2000, de faire des soirées, peut-être aussi de produire différents artistes. Est-ce que c'était plus simple, voilà, dans ces années-là, 90, début 2000?
La fin des années 90, c'est quand même la belle période de la musique électronique. Parce que c'était encore une musique récente, entre guillemets, récente, il y avait encore plein de gens qui étaient vraiment à fond dans cette musique. Donc un public qui était avide de ces soirées qui improbables, c'était pas encore trop connu, donc on pouvait organiser des événements dans des friches, dans des usines, etc. Et c'était la période où il y avait de la nouveauté. Aussi bien les salles, aussi bien de la musique, aussi bien des DJ, c'était juste incroyable. Après ça s'est vite essoufflé. Et puis après aussi, ça, la musique a commencé à se diviser, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes, des clans, et voilà, c'est devenu autre chose.
D'accord, d'où fin 99 peut-être la mutation d'épithète et Uncivilized Records Entertainment. Enfin, c'est vraiment pour regrouper tout, pour une mutation, pour être plus fort ou...
Bah disons que avant fin 90, mon label, j'étais tout seul pour en fait je faisais tout. Donc je faisais la musique, je faisais les pochettes, je faisais les pubs, j'allais chercher les disques, je faisais tout seul. Et à un moment donné, comme ça marchait trop bien, j'étais obligé de m'associer avec des personnes parce que je pouvais plus faire les choses toute seule. Donc je me suis associé à deux personnes, donc Frisch et Kraft. Et c'est pour ça qu'on a créé une autre société pour se diversifier et puis grossir, diversifier les styles aussi, parce qu'on avait plusieurs sous-labels, de la techno, de la tribe, un mix un label de CD mixé qui s'appelle Human. On a produit une trentaine de CD mixés. Donc oui, puis après on a commencé à produire réunir d'autres labels, et à la fin de l'histoire il y avait presque 10 sous-labels sous UWE, et donc Epithète c'était plus le centre, c'était vraiment un ensemble de labels et de compétences. Donc on avait une bookeuse pour bookiner nos artistes, on avait une promo France, promo étranger, on avait un juriste avec des stagiaires. C'était devenu une grosse machine. Alors évidemment, c'est un petit label, hein, mais c'est devenu une grosse machine. Et puis en plus, on bossait tous à fond toute la semaine à produire là, un CD et deux vinyles par mois. Donc il y avait un rythme vraiment soutenu de production et de promotion des artistes.
Oui, effectivement, ça devait être assez intensif. Et du coup, tu as aussi officié sous différents genres musicaux, enfin, différents noms, devrais-je dire. Ingler, donc c'est plus de la techno, du hardcore. Audiodrama, je crois que c'est de la techno. Et Carla Elves, plutôt de l'électronica. Alors, est-ce que c'est voulu, justement, cette diversification?
Oui, en fait, disons que les gens, le public, ils attendent que un nom produise, enfin un nom correspond à un style de musique. Donc j'ai bien obligé de changer de nom pour que les gens se reconnaissent dans les styles musicaux. Donc effectivement, Ingler, c'était mon projet hardcore industriel. Laurent O, c'était techno, hardcore, mais et puis industriel, hein, parce que de toute façon je suis industriel. Carla Elves, c'est en 2000, je sais plus quoi, en 2003, j'ai sorti un album, et puis en fait c'était un peu une erreur parce que j'ai pas fait du tout de promo sur ce nom, sur ce changement. Il y a Audiodrama, c'était mon projet donc sur ANLX, le label techno. J'avais sorti aussi plusieurs disques sous le nom de O.exe, donc entre de la techno et de l'industriel. Et puis quelques années après, j'ai un peu abandonné tous ces noms de projets. Et donc je n'ai plus que deux, c'est Ingler, ça c'est bas du front, hein, c'est du hardcore. Et puis mon nom de scène, qui est mon vrai nom aussi, Laurent O.
Thank you.
Tu continues à faire de la production. Tu as un album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Next, je crois. Est-ce que tu souhaites toujours produire sur des supports numériques, Wave, MP3? Mais est-ce que, dans l'idée, tu voudrais un jour refaire des albums sous format vinyle, sous format CD, comme tu as pu faire, ou c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresserait ?
La difficulté maintenant, c'est qu'il y a tellement de productions que produire un CD, c'est devenu extrêmement difficile de le distribuer. Moi, j'ai plus de label depuis des années, donc c'est très facile de faire de la musique et de la mettre sur Bandcamp ou sur Spotify et Deezer et compagnie. J'ai quand même prévu de ressortir mes derniers albums. Donc il y en a deux qui sont sortis, pas en CD, en numérique, et puis un troisième là qui arrive prochainement. J'ai prévu de faire un crowdfunding sur un Kickstarter pour financer, pour demander aux gens de me financer le mastering et puis la production. Donc ça va être sans doute trois CD, trois albums. Vinyle, je suis pas trop pour parce que c'est une telle, l'audience est tellement restreinte, c'est vraiment un tout petit comité, ça n'a pas vraiment de sens. Le CD, oui, c'est le format, j'aime bien le format CD, j'aime bien les pochettes CD, donc je ferai quelque chose prochainement.
Justement, tu parlais de CD et de pochettes, donc tu avais fait énormément de pochettes toi-même. Est-ce que c'est quelque chose aussi, un exercice que tu affectionnes, ou c'était vraiment pour le fait voilà, d'avoir une pochette sur les différents disques que tu as pu produire? Donc du coup, est-ce que c'est une continuité justement, je fais la production musicale et aussi du coup la pochette du disque, que ce soit un EP, un album, voilà, est-ce que c'est des choses que tu affectionnes tout particulièrement voilà, le...
En fait, j'ai appris à faire du graphisme à l'école et j'adore le graphisme, j'adore la photo, je fais beaucoup de photos et j'adore le graphisme. Et d'ailleurs, je suis prof de PAO, Illustrator et Photoshop, j'adore l'image. Donc, avoir un label, c'est la chance de pouvoir finalement tout faire, la direction artistique, la musique et aussi les pochettes et les pubs et les stickers et tout ça. Donc, et comme j'adore ça, c'est, c'est une chance de pouvoir faire, de pouvoir m'exprimer dans cet univers. Je trouve que mes pochettes elles sont un peu industrielles, un peu comme ma musique, entre abstrait et figuratif. Noir et blanc, couleur, enfin tout. Et ce qui est génial sur un disque vinyle, c'est qu'on a quand même beaucoup d'espace. On a 30 cm par 30 cm, donc c'est quand même grand. Et on a du carré, format carré, recto verso. Et puis après, sur le disque, c'est un cercle de, je sais plus combien, 10 cm de diamètre. Et en plus, ça tourne. Donc c'est vachement rigolo en fait de s'amuser avec des images donc en carré et en cercle qui tournent.
Aussi, on parlait tout à l'heure de CD, donc je vais refaire un petit peu marche arrière. Tu avais aussi produit un CD avec des samples, je crois, de hardcore, parce que le hardcore, ça a été vraiment une période bien spécifique sur ton label. Je crois que c'est 4 ou 5 ans de hardcore. Et après, tu es passé un petit peu à d'autres sonorités. Donc, je crois que tu avais fait un album avec justement un CD spécifique avec tous des samples hardcore.
Ah oui, alors... Donc, la production hardcore, c'était les grandes années. Hein, c'est 94 jusqu'à 99. Ça, c'était 5 ans de production massive de hardcore. Et donc, quand j'en ai eu un petit peu ras-le-bol... En fait, c'est suite à des fêtes qui étaient vraiment glauques, donc dans l'est de la France, où je me retrouvais plus du tout en adéquation avec l'audience, le public, et franchement, je commençais à plus aimer ça parce que le public n'était pas réceptif, il était là pour se défoncer et pas du tout pour la musique. Et moi, ça ne m'intéressait plus du tout. Donc j'ai dit, bon, ok, je fais un album et puis après, hop, je passe à autre chose. Donc l'album c'est Meta Ends, donc sous Ingler. Deux CD. Le premier CD c'est une compilation des morceaux qui avaient bien marché à l'époque. Et le CD 2, le live à Verdun, donc là une énorme fête qu'on avait organisée. Et à la fin, j'avais mis tous mes samples, tous mes meilleurs bass drums des cinq dernières années. Donc j'avais mis à disposition pour que les gens puissent faire du hardcore. Et c'est drôle parce que des années après, plein de gens m'ont dit mais non, ces bass drums là ont été utilisés massivement dans la musique hardcore ou hard techno. Et voilà, donc c'était une pierre à l'édifice de la démocratisation de la musique hard en général.
D'accord. Est-ce que c'était une espèce de conclusion aussi pour toi, pour la musique hardcore?
Ah bah oui, bien sûr que c'est une conclusion, puisque sur le sticker, c'était le testament hardcore. Donc c'était, il dit ok, je sors ça et après je fais plus de hardcore du tout de ma vie. Bon, évidemment, hein, quand on dit jamais, ça n'existe pas, on dit jamais, ou impossible, c'est impossible. Donc quand c'est sorti, pour moi c'était fini, je ne voulais plus en entendre parler. Évidemment, quelques années après, j'ai fait plusieurs disques et j'en refais encore maintenant, même si c'est un autre hardcore. Voilà, mais je me suis vraiment lancé dans l'électronica, dans des choses pas dance floor, des musiques beaucoup plus lentes. Don't.
Et justement, est-ce qu'il y a une mutation dans le hardcore ? Est-ce que le hardcore des années 90 est le même aujourd'hui ? Selon toi, est-ce que c'est le même hardcore ou c'est des choses qui sont plus...
Tous les styles de musique sont partis dans tous les sens. Et il y a des 10 000 sous-genres. Donc toutes les musiques ont muté. Donc aujourd'hui, il y a 10 000 styles de musique et tout est différent par rapport à, au début, évidemment. Hein. Même quand l'acide musique revient, bah c'est forcément différent. Et puis le mix est différent, le son est différent.
Donc bah justement, si on veut trouver tes productions, est-ce que c'est encore possible, que ce soit une production Ingler, audio-drama ou autre, où est-ce qu'on peut se fournir ?
Où peut-on se fournir ? Donc, bah, j'ai la chance d'avoir un distributeur électronique. Donc, je suis présent sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, enfin, toutes les plateformes. Donc, j'ai à peu près tout. Je crois qu'il manque deux ou trois albums. Donc, le reste, c'est disponible. Et puis, j'ai un Bandcamp où j'ai aussi pas mal de choses. Et pour les gens qui aiment le support vinyle ou CD, il faut aller sur Discog. Et sur Discog, si on tape Laurent O ou Ingler dans le marketplace, il y a des milliers de disques, tous en fait, ils sont tous disponibles.
D'accord. Est-ce que tu es aussi sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est quelque chose que tu affectionnes ou alors pas du tout ?
Alors j'ai coupé Facebook, Instagram, Twitter il y a 2 ou 3 ans. Donc je ne suis plus du tout sur les réseaux sociaux. Et ça fait du bien. Parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi d'étaler sa petite vie privée et les choses qui sont inintéressantes. Je trouve ça absolument dingue de ce qui est fait. De la récupération des données personnelles pour à des fins de marketing et de pub, tout ça. Je supporte plus les réseaux sociaux. Donc j'y étais pendant quelques années et là c'est fini. Et je suis pas prêt de revenir en fait.
Est-ce que tu fais aussi des soirées encore de temps à autre ou c'est vraiment quelque chose que tu as complètement arrêté?
Alors, ma carrière de DJ s'est arrêtée avec le premier confinement. Donc, c'est le Covid m'a tué direct, en un coup. Donc, maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 2 ans ? 2 ans ou 3 ans ? 2 ans. 2019, 2023. Ah non, ça fait 3 ans. Hein. Ça fait 3 ans. Et ben, voilà, c'est fini. Donc, c'est fini. Je suis passé à autre chose.
Malheureusement, c'est vrai que ça a fait beaucoup de mal, la Covid.
Donc maintenant, c'est musique et point. Il n'y a plus de soirée, plus de... Musique pour le plaisir. Et ce qui est bien, c'est que je suis encore assez créatif. Ça sort naturellement. J'ai encore fait, je ne sais plus combien là, j'ai 10 morceaux en 3 mois. Donc ça sort et voilà. Et en plus, comme je fais de la musique qui est vraiment pas dance floor, donc ça me dérange pas de ne pas avoir de soirée parce que c'est l'important pour moi, c'est la musique, c'est faire de la musique, écouter de la musique. J'écoute tout le temps de la musique Et j'en fais très 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 régulièrement. Les soirées, c'est un truc quand j'étais plus jeune aussi, hein, parce que à un moment donné, on commence à vieillir et puis moi je trouve plus, ça m'intéresse plus de sortir. Je suis passé à autre chose.
D'accord, non, mais après, c'est aussi de produire ta musique et la faire partager, puisque du coup, comme tu dis, tu es très productif, voilà, une musique assez prolifique, enfin, c'est assez régulier les sorties que tu fais, donc c'est aussi de la faire partager à d'autres personnes. Donc ça remplace effectivement peut-être aussi le temps que tu faisais des DJ sets, etc. Donc tu continues en fait ton ascension musicale, voilà, en faisant partager tes productions aux différents auditeurs.
Ambient Memory, l'interview.
L'émission hors série se termine. Nous aurons l'occasion d'interviewer d'autres artistes qui ont contribué à l'évolution de la scène électronique. Vous avez pu écouter dans l'ordre de diffusion O plus Maya avec le titre September, Dévotion, Mirange, Illines, O plus Louviguier, Radiodrama et Fuji. Ces productions sont extraites des albums Seventh, Red et Next que vous pouvez vous procurer sur le Bandcamp de Laurent O. Toutes les informations sur les comptes Facebook et Instagram d'Ambient Memory. Vous pouvez aussi obtenir tous les renseignements que vous souhaitez sur le contact Bandcamp de O. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.
Ambient Memory.